France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nous commençons cette édition par une initiative qui donne un peu de répit aux demandeurs d'asile et réfugiés d'un CADA de Pau, le triporteur solidaire, un service de transport de personnes âgées, handicapées ou ne disposant pas de moyens de locomotion, un programme qui doit faciliter l'intégration de ces personnes venues des ailleurs. Nous serons également en ligne avec Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine Village, pour un des dossiers du numéro de printemps consacré à la nouvelle vie donc des manufactures artisanales en France.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Daphné Lecoq, bonjour.
Bonjour Philippe.
Ravi d'arriver chez vous dans la ville de Pau, là où vous êtes professeur de français, vous donnez des cours au centre social La Pépinière et à un des CADA, un des centres d'accueil et demandeurs d'asile de Pau. Et vous avez eu une drôle d'idée, alors je sais pas si vous étiez seul ou avec d'autres personnes, c'est de proposer à des réfugiés, des demandeurs d'asile, de devenir les conducteurs de triporteurs.
Oui, c'est ça. En fait, il y a à peu près 2 ans, je donne des cours de français, comme vous l'avez dit, à des publics étrangers, donc demandeurs d'asile, réfugiés, depuis quelques années déjà. Et j'ai eu l'idée, il y a à peu près 2 ans, coordonner un peu différentes valeurs et différents métier, on va dire, que j'exerçais. Et donc, pour ça, j'ai eu cette idée de triporteur solidaire, c'est-à-dire c'est un vélo à 3 roues, assistance électrique, avec une banquette à l'avant. Et donc, ce triporteur emmène des gens, une ou deux personnes adultes, sur Pau et petite agglomération, on va dire, pour des rendez-vous. Et ce sont effectivement les conducteurs et les conductrices, ce sont des personnes réfugiées ou demandeurs d'asile. Et ça leur permet de créer du lien, de travailler leur français, de se rendre utile, de donner de leur temps aux personnes qu'ils emmènent, qui sont les bénéficiaires, qui sont pour la plupart à mobilité réduite.
Même si le service est récent, est-ce qu'on a déjà des retombées?
Alors, si vous voulez, j'ai des petites anecdotes qui sont assez sympas. On a Evelyne, qui est non-voyante et qui a son chien guide, Pat. Et donc, Evelyne a fait appel au triporteur solidaire pour qu'on l'emmène avec son chien, justement, le faire vacciner chez le vétérinaire. Et elle avait donné la mauvaise adresse. Et donc, c'est Bezad qui est, lui, il est afghan, il parle pas encore bien français. Et donc, à eux deux, entre une non-voyante et un non-francophone, ça a été un peu compliqué. Et finalement, ils en ont tiré tous les deux une très bonne expérience parce qu'ils se sont débrouillés à eux deux, à demander, ils ont bien rigolé. Et donc ça marche très bien parce que c'est des bons moments, en fait, passer ensemble.
Et les personnes qui passent par le CADA, entre autres celui de Pau, là, c'est Isarkos, hein, c'est ça?
Ouais. Isarkos, oui, tout à fait.
Sont réfugiés ou demandeurs d'asile, ça veut dire que normalement le pronostic pour eux est un séjour assuré en France ou pas?
Non. Certaines personnes arrivent en France et demandent l'asile, ça veut dire que la France peut leur accepter, leur donner l'asile, et dans ce cas-là, ils ont le statut de réfugié. Et ils peuvent rester, selon les statuts, 1 an, 4 ans, 10 ans ou plus. Par contre, un demandeur d'asile peut aussi être débouté et on peut ne pas l'accepter et lui dire non, tu rentres dans ton pays d'origine. Donc l'avantage du service pour les demandeurs d'asile en particulier, c'est que eux, comme ils ne sont pas sûrs de rester en France, ils n'ont pas le droit de travailler. En tous les cas, ils ont un accès très limité au travail salarié.
Absolument.
Et donc là, voilà, le fait de faire du bénévolat, eh ben, ça va leur permettre de pas seulement attendre, malheureusement, la réponse, et ça va leur permettre de s'intégrer, de parler français et de faciliter leur intégration en espérant le plus possible qu'ils obtiennent le statut de réfugié.
Mais auprès des étrangers, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, y a-t-il une avidité d'apprentissage?
Ah, complètement. Énorme. En fait, c'est un public fragile dans le sens où, en particulier, les demandeurs d'asile ne sont pas sûrs de rester en France. Mais j'ai envie de dire, ils font tout pour. C'est des personnes qui ont envie d'apprendre et au-delà d'apprendre, qui ont envie de montrer ce qu'ils savent faire. Parce que nous, on est souvent un peu dans une position de on va vous enseigner le français, on va vous enseigner la culture française, on va vous enseigner, etc. Mais eux, ils ont énormément à nous enseigner, à nous apporter aussi. Et moi, j'ai l'habitude de dire que je suis une riche bénévole, parce que un bénévole s'enrichit énormément de la culture de l'autre. Donc oui, ils ont une grande envie d'apprendre, de rendre service, ils sont très attentionnés, en tous les cas, ceux que je connais, hein, bien sûr, mais je suis sûre que c'est le cas pour la majorité, ils sont très attentionnés avec les personnes, et c'est une vraie richesse réciproque d'échange, de bons procédés.
Alors, à propos de richesse, pour revenir à une version richesse plus prosaïque, vous avez bénéficié du budget participatif du département ?
Tout à fait, oui, le conseil départemental donc des Pyrénées-Atlantiques a lancé son premier budget participatif il y a un an et demi à peu près, c'était en octobre 2020. Et on a été lauréat, donc on était une quarantaine de lauréats, et donc du coup on a été entièrement financé par le conseil départemental, à savoir grâce à ce financement, on a pu acheter donc un triporteur, également un abri à vélo, et puis également on a pu financer tout ce qui est communication, flyers, logos, etc.
Il y a des liens au site de la pépinière de Pau, il y a aussi un téléphone que vous allez trouver à nos pages d'émission, si vous voulez bénéficier de ce service du triporteur solidaire. Merci. Exactement. Daphné.
Merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Raphaël est membre d'une agence de création qui conçoit des objets innovants pour les enfants, comme des livres animés, des coffrets de loisirs créatifs ou des objets numériques. L'agence s'appelle Okidokid. Elle est domiciliée en Haute-Garonne et il nous fait part de sa dernière création, Magic Cocoon. Alors, cette création est une cabane à histoire pour les enfants réalisée dans un tonneau. Ça m'a fait sourire. Une ouverture latérale, un aménagement douille à l'intérieur, un éclairage automatique qui permet à l'enfant de s'installer en s'isolant du monde ambiant avec un livre. Il existe aussi une version avec haut-parleur qui offre la possibilité d'écouter des contes et des histoires. Le concept est déjà en circulation dans des médiathèques et des bibliothèques, et je m'arrête sur la conception avec une équipe de travailleurs handicapés, des matériaux de récupération, l'emploi de revêtements écologiques et un usage plus durable qu'une cabane en plastique. Le tout est 100% made in France et le concept a été lauréat d'un appel à projet participatif intitulé « Développons l'économie circulaire » orchestré par la région Occitanie en 2019. Il y a un site, c'est Magic cocoon.com pour découvrir cette invention. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Un nouveau dossier du dernier magazine Village, celui de printemps que vous trouvez aussi pour les premières informations sur le site villagemagazine.fr. En kiosque, vous allez découvrir ce dossier avec une interrogation. Et si c'était l'entreprise de demain, c'est une question que vous posez à l'adresse des manufactures artisanales. Et je ne savais pas qu'il y avait un regain d'intérêt pour ces manufactures qui sont en général des édifices de très très grand volume.
Oui, c'est vrai que ça peut paraître comme ça un petit peu désuet, la manufacture. Alors, manufacture, déjà, c'est un mot qui vient du latin et qui veut dire finalement fait à la main. C'est manufactura, fait à la main. Et effectivement, on voit bien ces vieilles grandes usines, souvent du 19e, ou magnifiques, mais souvent abandonnées. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que ces entreprises qui travaillent avec des matériaux présents sur place, ou en tout cas des ressources, alors ça peut être pour fabriquer des jouets en bois dans le Jura, les forêts jurassiennes, les carrières de sable des Vosges pour les verreries, les mûriers tourangeaux puis lyonnais qui ont donné lieu aux soieries, la laine avec les moutons en Aveyron, etc. À chaque fois, en tout cas, un rapport très fort avec la matière, la ressource locale, donc très typée, et beaucoup enfermées, hein, parce qu'elles ont été très très peu soutenues. On a dit, ça c'est fini, délocalisation partout à travers le monde, produits pas chers, et elles ont été pour la plupart supprimées, désertées. Et puis quelques entrepreneurs se sont dit, mais c'est une vraie force aujourd'hui, avec le retour de la qualité, avec la nécessité d'arrêter de transporter des matières sur tous les continents, et de retrouver aussi une forme d'économie circulaire, parce que souvent on voit que ces entreprises, elles recyclent les matériaux, elles font des sortes de circuits fermés pour éviter des déchets, donc c'est vraiment l'économie de demain. Et bien les entrepreneurs qui ont réussi à trouver quelques capitaux pour relancer ces savoir-faire-là, aujourd'hui s'en sortent très bien, voire même ils exportent parfois certains produits, ce qui est assez fou, et c'est effectivement, on a des très belles réussites d'entreprises.
Première illustration, la manufacture de Digoin, qui a été reprise en 2014 par une femme, c'est Corinne Jourdain-Gros. Elle a relancé cette manufacture de céramique, Elle a aujourd'hui 21 salariés.
Oui, alors que quand elle a reprise, moi, il y en avait 4. Elle est allée rechercher les anciens salariés, en fait, ouais. de l'entreprise, en disant, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Elle a augmenté de façon assez considérable, justement, le chiffre d'affaires, hein, ce qui était... alors que, bon, on disait, mais ça marchera pas, ça va pas fonctionner. Et puis, elle a réussi, justement, à relancer même ses céramiques et à exporter ce produit de qualité, plus beaucoup de ventes locales, hein, comme souvent dans ces manufactures reprises aujourd'hui.
Alors ce sont pour la plupart des entreprises du patrimoine vivant. Vous donnez les chiffres dans le magazine Village, 1400 entreprises, 62 000 emplois, pour un chiffre d'affaires environ de 14 milliards d'euros.
Oui, c'est pas rien, hein. Bah, c'est vraiment pas du tout négligeable. Et pourtant, on n'en parle pas, finalement. Hein. Là, on a eu la chance, effectivement, de croiser sur notre route à Village Gabriel Légeret, qui a monté un podcast hein, qui s'appelle De l'or dans les mains, et qui fait le tour depuis un an de ces manufactures, et qui nous a permis d'aller avec elle enquêter sur toutes ces manufactures et ce qui s'y passait. Et je trouve que c'est assez admirable ce qui se fait dans ces entreprises très patrimoniales, effectivement. Et je pense qu'on entendra longtemps parler d'elles, parce qu'il y a un véritable potentiel pour valoriser de façon durable, intelligente, des ressources locales et puis des savoir-faire. Mais c'est difficile, parce qu'on trouve même plus, parfois, la main-d'œuvre pour faire face aux besoins. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est chez Je Jura, eh bien, on n'arrive plus à trouver des tourneurs sur bois en nombre suffisant, puisque le travail manuel a été trop dévalorisé. Et même aujourd'hui, ils ont du mal à recruter des salariés. Alors qu'on sait que plein de jeunes aujourd'hui aspirent à retrouver des métiers qui ont du sens, des métiers manuels, des métiers qui prennent en compte le développement durable, c'est-à-dire effectivement qui tiennent compte de la limite des ressources. Donc je pense que ce sont vraiment des métiers porteurs, mais c'est pas assez connu. C'était pour ça qu'on a fait ce dossier.
Alors Je Jura, qui est dirigé par l'arrière-petit-fils du créateur de cette entreprise à Saint-Germain-en-Montagne, profite évidemment du bois local, d'une scierie qui est à quelques mètres de l'entreprise de jouets. Et aujourd'hui, Je Jura, qui avait subi aussi le contre-coup de cette fameuse concurrence, et en particulier concurrence chinoise, compte quand même 130 salariés, c'est pas rien non plus.
Non, là on n'est pas sur une petite manufacture aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'était étonnant, parce que les banques à une époque n'avaient pas du tout suivi, hein, la famille avait en gros perdu l'entreprise, il y avait eu un redressement judiciaire, et puis on avait dit, ouais, non, mais ça c'est désuet. Et puis finalement, aujourd'hui, il dirige le descendant la manufacture avec sa sœur, mais il ne possède plus l'entreprise, parce qu'au moment, ben, effectivement, ils n'ont pas eu, la famille, des capitaux nécessaires, ils n'ont pas été soutenus, alors qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un chiffre d'affaires important et vraiment une richesse sur le territoire.
Villagemagazine.fr. Merci beaucoup Sylvie, à bientôt.
Merci Philippe, à bientôt.
Ça tombe très bien qu'on parle de manufacture, parce qu'on a reçu hier un message en guise de bouteille à la mer. Son auteur est Denis, membre d'une des dernières familles de tuiliers en France. 4 générations ont réalisé des tuiles, des tomettes, dont son oncle, encore récemment réalisateur. Denis a consacré un film à cette tuilerie de Sancey dans le Poitou. La tuilerie familiale a fermé ses portes il y a 2 ans, alors que la demande est de plus en plus importante. L'oncle de Denis est maintenant retraité. Son intention était de vendre l'entreprise. Et aujourd'hui, il dit, c'est tellement toute ma vie que je suis prêt à la donner pour voir l'activité reprendre. La famille recherche donc un couple pour redonner vie à cette entreprise. Précision, il faut être manuel, technique, capable de gérer l'administratif. Il y a pas mal de boulot, comme le dit Denis, et censé un chouette village entre la Vienne et de Sèvres, ou animer l'été dans ces fameuses soirées lyriques. Voilà, je relaie le message de cette grosse bouteille. Il y a un contact que vous allez trouver à nos pages d'émission.